Vous écoutez RTL.
Midi et demi.
RTL Midi.
Le 12-30, Vincent Parisot, Christelle Revienne.
Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. C'est RTL Midi. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Et oui, votre rendez-vous, 1h30, tous ensemble, pour comprendre l'actualité. Grâce à vous et avec vous, grâce à vos témoignages, car vous réagissez, vous êtes nos experts. Et donc, dès maintenant, on attend vos appels au 3210 sur le sujet qui vous intéresse. 3210 pour nous parler, mais également vos messages sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. RTL Midi, le grand carrefour d'infos de la mi-journée et l'actualité, Christelle. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui veut prévenir la radicalisation islamiste.
Des structures spécialement dédiées pour 1500 détenus radicalisés, des cellules laïcité dans les écoles. Édouard Philippe dévoile en ce moment même son plan. Les urgences de nuit de l'hôpital de Clamecy ne veulent pas être débranchées. Une trentaine de maires bourguignons posent leur écharpe tricolore symboliquement. Dans RTL Midi aussi, soyez fluent en anglais, c'est bon pour vous et aussi et surtout pour notre commerce extérieur. Le gouvernement s'engage à financer une certification en anglais aux lycéens de terminale et aux étudiants de licence. Vous connaissez le leasing ?
Oui.
En bon français, on dit location avec option d'achat. La formule dope le marché des voitures neuves. Les trois quarts des véhicules sont financés de cette manière. Avantage, inconvénient, témoigné 3210. Toute la France est en vacances ce week-end. Quels que soient vos loisirs, couvrez-vous. Bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Le froid s'intensifie. 29 départements sont en vigilance.
Oui, le froid s'installe et le froid va même s'intensifier à partir de dimanche après-midi, avec en plus la bise qui souffle cet après-midi sur la moitié nord du pays, sous un ciel parfaitement dégagé dans le nord et sur la côte atlantique, mais ça reste encore très nuageux entre les frontières de l'Est et les Pyrénées et dans le sud-est où là le temps est très instable avec des averses cet après-midi entre la côte d'Azur et la Corse, de fortes chutes de neige sur les Alpes du Sud, en particulier près de la frontière italienne, et le risque d'avalanche est toujours très élevé sur le Mercantour. Les températures pour cet après-midi de 2 à 13 degrés.
Merci Patricia, on vous retrouvera évidemment juste avant 13h pour une météo plus développée. Après 13h, vos rendez-vous. Tout d'abord une histoire dans un jour sur la Terre qui nous amènera aujourd'hui au Cap Ferré avec un naturiste, disons, un peu trop curieux. À 13h50, donc avant 14h, vous rirez beaucoup grâce à Laurent Gérard. Et puis, je vous rappelle la question du jour sur RTL.fr. On parle de notre niveau d'anglais qu'il faudrait augmenter un peu, notamment pour notre commerce extérieur. Donc, on vous demande si vous jugez votre niveau d'anglais satisfaisant. Vous êtes sans doute assez réaliste, puisque vous dites non à 74% et oui à seulement 20%. Et qu'en dit Frédéric, qui nous appelle justement de Reading, en Angleterre ?
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
I think it is. It's really difficult when you start with. So I've been living in England for almost 20 years now, and at first it was really difficult. Now it's okay, but I do realize that it's still a struggle with some other people.
Bon, ben, si vous avez à peu près compris, vous pouvez répondre oui et vous êtes dans les 20%. Hein. Et on en reparle tout à l'heure au 3210.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Des moutons de Somalie, des yaks, des chats et bien sûr cette vache de race Aubrac haute qui est la star de cette année. Le 55e salon de l'agriculture ouvre demain et pour certains, ce sera une première. On évoque souvent la crise du monde agricole en oubliant d'évoquer l'enthousiasme de ces jeunes qui ont choisi délibérément ce mode de vie car ce n'est pas seulement un métier. Jacques Serret, vous venez de rencontrer Germain, 21 ans. Il vient d'arriver à Paris avec sa première vache.
Oui, c'est un jeune agriculteur tout sourire au milieu du pavillon des bovins. Germain Jeannenot vient d'installer sa vache Montbéliarde dans la paille du salon. Ce moment, il en rêvait.
J'en rêvais. Quand je voyais les autres, je me disais, ben, le jour où c'est que j'en aurais une, je me disais, ben, je serais content. Parce que c'est un plaisir d'aller avec notre vache. Moi, j'aime autant aller venir au salon avec ma vache que d'aller en vacances à la plage. Quoi.
À ses côtés, sa petite protégée robe pirouge.
Oui, c'est Luno, L-U-N-O.
À quel âge ?
Je vais l'avoir 3 ans le 28 mai. Ce sera la première vache que j'aurai emmenée au salon, quoi. La chouchoute du départ, quoi. J'espère que ce sera la première et pas la dernière.
Car à 21 ans, sa formation terminée, Germain s'installe. Il s'associe dans 2 mois avec celui qui était son maître de stage. Pourtant, il n'était pas forcément prédestiné à cela.
Mes parents sont pas agriculteurs du tout. Mon père, il est commercial et puis ma mère est infirmière. Alors, c'est pas du tout là-dedans.
La passion des animaux l'a convaincu et malgré les difficultés des éleveurs laitiers, il a confiance en l'avenir.
Pourquoi il y en a qui arrivent à s'installer et puis pourquoi pas moi, quoi ? Ah ben moi j'ai confiance. Si je gère mon truc comme il faut et puis tout, ça devrait marcher.
Une certaine image de l'agriculture que Germain souhaite partager aux nombreux visiteurs attendus dès demain matin.
Merci beaucoup. Tiens, la fraîcheur, l'enthousiasme de Germain, jeune agriculteur qui se lance dans le métier. Alors que même ses parents, hein, il l'a dit, ne l'étaient pas. Ça vous fait peut-être réagir. Peut-être que vous êtes dans son cas. Alors n'hésitez pas. On vous attend 30-10 et on fait la bise à sa première vache, à Luno. Vous avez bien compris.
Emmanuel Macron passera la journée demain au Salon de l'Agriculture, mais curieusement, Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, va sécher le rendez-vous. Faut-il y voir une brouille avec les agriculteurs, Benjamin Sportouche ?
Mais écoutez, a priori non, c'est même la FNSEA qui le dit, le principal syndicat des agriculteurs. Il s'estime plutôt bien traité par le ministre de l'Environnement. Nicolas Hulot était aussi présent hier à l'Élysée pour la rencontre entre le chef de l'État et les jeunes agriculteurs, et ça s'est bien passé. Alors pourquoi n'y va-t-il pas, me direz-vous ? Eh bien, la plupart de ses prédécesseurs s'y sont rendus, quitte à être insulté, comme Dominique Voynet en son temps, officiellement, nous dit-on au ministère. C'est parce que Nicolas Hulot, je cite, privilégie le dialogue direct avec les parties prenantes dans de bonnes conditions d'échange. Alors, comme tout élément de langage, ça veut tout dire et ne rien dire. On ne peut pas exclure en fait la crainte d'un mauvais accueil. Le salon est un lieu, on le sait, imprévisible. Sa position sur les glyphosates ne passe toujours pas chez les agriculteurs, tout comme le plan loup qui vient d'être annoncé. Alors Nicolas Hulot peut toujours changer d'avis, ça fait partie de son tempérament. Le salon dure 8 jours. En attendant, c'est son secrétaire d'État, Sébastien Lecornu, qui jouera les remplaçants. Il y viendra même 3 fois entre lundi et mercredi.
Benjamin Sportouche, et vous, Benjamin, vous poserez des questions dimanche à Stéphane Travers, le ministre de l'Agriculture, qui sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI.
Comment lutter contre l'islam radical ? C'est un impossible casse-tête. D'ailleurs, le plan qu'annonce en ce moment Édouard Philippe est le 3e en 4 ans. En tout cas, une douzaine de ministères sont mobilisés, de l'intérieur au sport, en passant par la justice. Il s'agit de lutter contre la radicalisation aussi bien dans le sport amateur qu'en prison et bien sûr à l'école. Alors, Édouard Philippe s'est rendu ce matin d'ailleurs dans un lycée professionnel de Lille où une cellule laïcité existe déjà. Elle devrait même être renforcée, Franck Hanson.
Oui, développer l'esprit critique des élèves, favoriser le dialogue, c'est le but de ces unités laïcité face au Premier ministre. Des enseignants témoignent de ces cas d'élèves susceptibles de basculer qui refusaient les minutes de silence après les attentats. Jean-Yves Bessol est l'inspecteur d'Académie du Nord.
C'est quelque chose qui prend de l'ampleur ces dernières années, avec des élèves qui peuvent être plus complexes. Ça peut être refusé de participer à un enseignement de sciences et vie et de la terre, à des enseignements éducation physique et sportive. C'est en fait une contestation qui ne s'appuie pas sur des faits scientifiques.
Des moyens qui devraient donc être accrus pour détecter ces cas sensibles, se réjouit Mathieu Clouet, référent laïcité au lycée Baggio à Lille.
Nous irons plus facilement à la rencontre des enseignants. L'important, si vous voulez, c'est que nous puissions assurer la sécurité morale et intellectuelle de nos élèves. Les faire échapper à ces entreprises de prédation intellectuelle et morale d'un certain nombre d'individus mal intentionnés.
Les élèves, en tout cas, semblent ouverts à la discussion.
Par rapport aux réseaux sociaux, on n'a pas vraiment de protection. Je me dis que j'aurais pu basculer. Il y a 4-5 ans, je ne connaissais pas du tout la radicalisation. Tout ce qui était Daesh, tout ça, je ne connaissais pas du tout. Tout le monde en nous a une part qui voudrait être célèbre.
Il y a plein de gens qui ne savent plus forcément où se placer et ils vont choisir cette facilité.
12 000 enseignants ont déjà été formés dans l'Académie du Nord depuis 2015.
Un reportage Franck Hanson. Et pour aller plus loin, nous sommes avec Yanis Roder, professeur d'histoire géo dans un collège de Seine-Saint-Denis, directeur de l'Observatoire d'éducation de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour.
Bonjour.
Vous-même, en tant qu'enseignant, vous avez été confronté à des élèves radicalisés ?
Alors, c'est difficile, vous savez, dans un établissement scolaire, de voir qui est radicalisé par on va dire, l'apparence extérieure, puisque les signes religieux étant interdits au sein de l'école, on peut néanmoins, par les discours que nous entendons, voir, comprendre que certains élèves sont en voie de radicalisation. C'est par exemple le cas d'élèves qui peuvent tenir des discours complotistes ou voire antisémites parfois.
L'histoire géographie que vous enseignez, en plus, j'ai envie de dire, c'est une matière assez sensible. Votre enseignement lui-même, vous avez senti que parfois il était contesté par vos élèves ?
Alors, contesté, pas réellement, mais que certains élèves doutent de certains propos tenus par le professeur, cela peut arriver. Par exemple, dès qu'il est question du monde contemporain, du 11 septembre, par exemple, j'ai un élève l'an dernier qui a tenu des propos totalement complotistes, affirmant ainsi devant les autres élèves que le 11 septembre était un coup des services secrets américains de manière à permettre aux États-Unis de déclarer une guerre mondiale à l'islam. Mmh. Alors, on peut avoir ce type de propos. Donc ce n'est pas vraiment une contestation de ce que dit le prof, c'est la présentation d'une autre version que l'élève peut penser plus proche de la réalité qu'il veut croire.
Et alors justement, quels sont les outils dont dispose l'enseignant à ce moment-là ?
Écoutez, les outils, c'est d'abord le fait d'être enseignant, c'est-à-dire tout simplement la posture à adopter. Ne pas prendre de haut les élèves qui tiennent ces discours-là. Ne pas se moquer d'eux, ne pas rire d'eux, mais leur faire comprendre que leurs propos vous intéressent et vous allez leur dire, voilà, pourquoi tes propos m'intéressent. Parce que l'idée, si vous voulez, derrière, ce n'est pas nécessairement de parvenir à convaincre obligatoirement cet élève, parce que, vous savez, un élève radicalisé, c'est difficile, hein, et si le Premier ministre met en branle un nouveau plan de déradicalisation ou de lutte contre la radicalisation, c'est bien parce que ce n'est pas simple. Si l'école avait la solution, ce serait formidable. Mais l'idée est de construire, si vous voulez, une ceinture étanche autour de cet élève, de manière à ce que les autres n'adhèrent pas à son propos et voient toutes les contradictions et toute la violence que peut porter ce type de propos. Donc c'est d'abord dans la posture et après, bien sûr, c'est dans le contenu de ce que c'est l'enseignant, de son savoir scientifique, de la manière dont il va répondre point par point en amenant de la bibliographie, de la connaissance historique, de la manière dont on administre la preuve en histoire, par exemple. Et tout cela, ça s'apprend.
Mais en même temps, l'élève Yannis Schroeder, il n'est pas seul. Il vit dans un environnement. Alors évidemment, il y a ses proches, ses amis. Il y a aussi ses parents. Les parents, est-ce que vous constatez qu'ils font de plus en plus, par exemple, pression sur l'enseignement, sur les enseignants et sur l'enseignement qui est donné à leurs enfants ?
Écoutez, moi, je ne le constate pas dans mon établissement, mais je sais, pour former les enseignants sur ces questions-là notamment, que certains enseignants me font part de pression par certains parents. Pression qui, à mon sens et à mon avis, hein, reste quand même rare. Mais si cela existe, effectivement, c'est le rôle de l'école de bien faire comprendre qu'à l'école, on enseigne des faits, des événements qui sont vérifiables et acceptables par tous, que le discours religieux n'a pas sa place à l'école, que l'école n'est pas le supermarché de ce que je peux prendre ou pas prendre. L'école donne, l'élève doit faire en sorte de recevoir cet enseignement basé sur un enseignement scientifique et rationnel.
Merci Yannis Schroeder. Je rappelle que vous êtes prof d'histoire géo dans un collège en Seine-Saint-Denis et directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès.
En Syrie, au moins 9 civils ont été tués ce matin dans de nouveaux bombardements sur la Ghouta orientale près de Damas. On en est à plus de 400 morts depuis dimanche. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit voter aujourd'hui un projet de résolution demandant un cessez-le-feu de 30 jours en Syrie, le temps de procéder à des évacuations et de fournir une aide humanitaire. Dans un instant, il y a urgence pour sauver les urgences de nuit de Clamecy en Bourgogne.
RTL Midi, Christelle Robière, Vincent Parizeau.
Urgence fermée, mort annoncée, c'est l'un des slogans entendus ce matin dans les rues de Clamecy, petite bourgade de la Nièvre, peu habituée aux manifestations. Près d'un habitant sur quatre s'est mobilisé contre la fermeture annoncée des urgences de nuit à l'hôpital. Une nouvelle illustration de la désertification rurale. Il leur faudrait près d'une heure pour se rendre à l'hôpital le plus proche, celui d'Auxerre. Et une trentaine de maires ont symboliquement démissionné. Nicolas Burnand, vous êtes sur place pour RTL.
Sous les applaudissements des manifestants, les élus déposent symboliquement en signe de protestation leur écharpe tricolore dans la cour de l'hôpital au pied d'une Marianne drapée de noir. Gilles Noël est à la tête d'une commune de 1500 habitants.
D'abord, on parle avec notre cœur. On a cette question toutes les nuits qui est posée. On restera ferme. Travaillons ensemble à la définition d'une offre de soins 24 heures sur 24 en milieu rural.
En tête du cortège, un cercueil en bois est porté à bout de bras par le personnel de l'hôpital. Alexandrine est infirmière.
Les services d'urgence les plus proches seront l'hôpital d'Auxerre et l'hôpital de Nevers qui sont à une bonne heure de route. Là, la vie des gens est vraiment en danger. Et moi, j'ai pas fait ce métier-là pour qu'on parle de chiffres. J'ai fait ce métier-là pour aider les gens.
La commune a déjà perdu sa maternité en 2008. Serge, casserole à la main, a l'impression que l'histoire se répète.
On a vraiment le sentiment qu'on délaisse toute la ruralité en général. Bah, la vie ne sera peut-être plus possible dans quelques années à Clamecy. Fonctionné par l'État qui ramène tous les moyens vers la ville.
Les habitants promettent de rester mobilisés. Le nouveau plan régional de santé, encore en discussion, doit être rendu public ce printemps.
Reportage Nicolas Burnand. Et si vous aussi, dans votre région, vous vous battez pour que l'hôpital, le bureau de poste, la gare SNCF ou l'école ne ferment pas, eh bien décrochez le téléphone, témoignez au 3210.
Démissionner et pouvoir toucher le chômage. Souvenez-vous, c'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, mais son coût risquait d'être très élevé. Alors les partenaires sociaux ont finalement trouvé un accord hier soir après plusieurs semaines de négociations. Le système, en fait, sera ou serait très encadré et ne s'adresserait potentiellement, Naïs Bouissou, qu'à 23 000 personnes, c'est ça ?
Oui, entre 14 000 et 23 000 nouvelles personnes qui démissionnent auraient droit aux indemnités chômage. Effectivement, c'est un droit en plus, donc c'est toujours ça de prix. Mais ce n'est pas énorme quand on sait que 70 000 démissionnaires peuvent déjà toucher le chômage aujourd'hui. Concrètement, si cet accord est appliqué, si vous voulez démissionner, vous aurez des allocations à deux conditions. Un, si vous avez un nouveau projet professionnel, une reconversion par exemple, avec une nouvelle formation pour changer de vie. Et deux, si vous travaillez depuis au moins 7 ans. Si votre dossier de démissionnaire est accepté par Pôle emploi, les droits au chômage, les allocations seraient les mêmes que pour les demandeurs d'emploi actuels, avec un entretien de suivi géré par un conseiller. Le coût de la mesure est évalué à entre 180 et 330 millions d'euros par an.
Merci beaucoup. À noter que les partenaires sociaux attendent désormais des garanties du gouvernement pour signer définitivement l'accord global sur l'assurance chômage, qui ne concerne pas seulement évidemment les démissionnaires. L'accord qui a été trouvé hier. Ils ne veulent pas signer parce qu'ils craignent en fait que l'exécutif ensuite modifie le texte.
Et si vous changez de parcours, pourquoi ne pas vous lancer dans l'export ? Alors que notre balance commerciale accuse un déficit record de plus de 60 milliards d'euros, le gouvernement voudrait inverser la tendance et ne laisse rien au hasard. Il veut relever d'urgence notre niveau en anglais et le gouvernement va même financer une certification de type TOEFL pour les élèves de terminale et les étudiants en licence, Christophe Ponzio.
Exactement, des certificats internationaux d'anglais reconnus partout dans le monde et apprécié par les entreprises. TOEFL, vous le disiez, mais aussi les tests Cambridge ou IELTS qui coûtent cher pour les jeunes, un peu plus de 200 euros. Le gouvernement financera ces examens pour ceux qui souhaitent les passer. La mesure sera progressivement mise en place. D'abord pour les étudiants en cursus internationaux, tourisme, commerce, exportation et puis dans 3 ans, généralisation. Tous les lycéens de terminale et les élèves de licence pourront y prétendre. Selon nos informations, une mission sera chargée d'organiser cette aide d'ici à cet été, l'État négociera des tarifs de groupe pour limiter ses coûts. L'objectif, c'est que l'anglais ne soit plus un frein à l'exportation pour les futurs chefs d'entreprise, notamment de PME. Encore faudra-t-il qu'ils réussissent ces tests financés par l'État, qu'ils aient le niveau requis, puisque ces certifications ne sont pas des cours d'anglais.
Merci Christophe Ponzio. Alors on va aller plus loin, en français si vous le voulez bien, avec Stiliano Santalis. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes président de SNU, c'est un organisme de formation à l'anglais. Tout d'abord un mot du constat qui est dressé. Le faible niveau d'anglais des chefs d'entreprise français serait une des causes de notre déficit du commerce extérieur. Est-ce que vous le pensez aussi ? Est-ce que nos patrons aujourd'hui parlent mal l'anglais ?
Alors, il y a certains qui parlent mal anglais, il y a d'autres qui parlent mieux anglais, mais le constat reste le même. On a un problème d'anglais ici en France, dans les entreprises. Nous, on le voit, on a eu pas plus loin, il y a quelques mois, un patron d'une grande PME qui nous appelait. En fait, étant donné qu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui ont du cash, ils achètent nos pépites ici en France.
Ouais.
Et quand ils mettent l'argent dedans, il faut que l'entreprise parle anglais. On était contacté, il faut les former, le patron, tous les états généraux de l'entreprise et les salariés pour le préparer pour leur achat.
Donc en urgence finalement.
En urgence, oui.
Il faut apprendre au patron, au sous-directeur, etc.
Et le niveau était catastrophique au départ.
Les niveaux très varient, moyen, quoi. C'est moyen, quoi. On est toujours moyen. Et je trouve qu'est-ce que le gouvernement fait aujourd'hui, c'est dans le bon sens, mais. En même temps, un test ne donne pas un niveau d'anglais.
Mais voilà, c'est ça.
En fait,
est-ce que ça va résoudre le problème ? C'est bien de dire on va financer une certification, l'examen de certification, mais le problème, c'est le niveau qui nous mène jusqu'à l'examen.
Ça, le problème, toujours le même problème. On est dans un test de sanction. Donc, un test, le TOEFL ou tous ceux que vous avez cités tout à l'heure, c'est des tests qu'on peut bacheter. Donc, on va avoir un score. Mais le problème, c'est l'interaction. C'est comment est-ce qu'on va se comporter devant une société ou des achats pour aller vendre nos produits.
Mais justement, et la question, c'est comment justement on parle bien anglais, comment on améliore son niveau d'anglais sans le parler régulièrement ?
Alors,
là, c'est pas possible.
C'est pas possible.
Ouais, voilà. Donc, il faudrait quoi? Il faudrait parler anglais dans les entreprises françaises?
Oui, il faut parler tout le temps en anglais. Il faut échanger. C'est quelque chose qui est fondamental. Mmh. Regardez, moi, avec mon français, c'est pas impeccable. À l'école que j'ai appris le français. C'est en discutant et en parlant, en faisant les erreurs. Et c'est ça qu'il faut faire. Mmh. Et je pense qu'il y a encore trop tabou dans les entreprises.
On devrait prendre des cours d'anglais en permanence dans notre entreprise.
Mais oui, mais la formation, vous savez, la formation, c'est quelque chose qui est fondamental. On va, avec tout ce qui est la digitalisation aujourd'hui, on va changer de métier 7 à 10 fois, voire plus dans une carrière. Donc la formation, elle est importante. Et en plus, étant donné que maintenant c'est mondial, on parle ça depuis des années, on a besoin de parler anglais. L'anglais, c'est fondamental.
Merci beaucoup, Stiliano Santalis, président de SNU. C'est un organisme de formation à l'anglais qui plus est désormais, qui est certifié, hein, qui donne une certification.
Exactement. En fait, notre formation était reconnue LNI et on est la première formation en anglais qui est certifiée, donc reconnue par toutes les branches professionnelles et des entreprises françaises et internationales.
Merci, voilà. Alors vous êtes salarié, vous êtes chef d'entreprise, et ben on attend maintenant vos témoignages au 3210. Parlez-nous très honnêtement, hein, honestly on va dire.
Oh oui, elle est bien celle-là.
De votre niveau d'anglais, on a envie d'en savoir plus.
On marque une pause et puis dans un instant, on s'offre une voiture neuve, mais en LOA, vous voyez Christelle. Location avec option d'achat.
D'accord.
En anglais on dit leasing, non c'est ça?
C'est ça.
Tout à fait.
RTL Midi, Christelle Rebière, Vincent Parisot.
Une voiture neuve à 5 euros par jour, sans apport, avec l'entretien inclus pendant 5 ans. Vous connaissez par cœur ce genre de publicité. Le système de location avec option d'achat dope le marché automobile. Les trois quarts des véhicules neufs achetés en 2017 l'ont été grâce à ce dispositif. Alors, on va s'arrêter avec vous, Florian Martin, sur la LOA. Est-ce vraiment le moyen de s'offrir une voiture neuve à moindre coût?
Oui, et c'est surtout le moyen d'être tranquille, la tranquillité. De ne plus être propriétaire. Vous oubliez tous les ennuis qui vont avec. Louer une voiture, c'est un service à la carte pour un budget maîtrisé. Vous payez une mensualité, exemple 130 euros par mois pour une petite Twingo et c'est tout. Fini la galère de l'entretien, des contrats d'assurance et vous ne pensez même pas à la revente. L'autre avantage, vous roulez avec du neuf. Vous êtes à la pointe de la technologie en matière de sécurité. Votre voiture est aux nouvelles normes, ce qui est plutôt intéressant avec toutes les mesures écologiques qui sont mises en place en ce moment.
Mais dites-moi, il y a quand même des inconvénients, non?
Oui, qui dit location dit contrat en béton et là, attention, vous devez le respecter à la lettre. Si votre situation change, financière change, attention. Et surtout, vous vous engagez à rendre la voiture impeccable à la fin de la location. Si vous ne l'achetez pas, ça peut vous coûter très cher. Bref, à l'usage, c'est une bonne idée, mais soyez vigilant avant de signer.
Alors, on vous attend justement au 3210. Dites-nous pourquoi vous avez choisi ce système de LOA, si vous l'avez choisi. Dites-nous si vous en êtes satisfait, si vous avez déchanté à la fin de la location, hein, en général. Trois ans, est-ce que vous avez dû payer assez cher, par exemple, pour la remettre en état, votre voiture? On en repart tous ensemble avec vous, Florian Martin, tout à l'heure, à partir de 13h30 environ.
Un incident de chantier inquiétant hier sur la ligne C du RER près d'Ablon, dans le Val-de-Marne. Une pièce métallique est venue s'encastrer dans un wagon. Ce matin, sur RTL, Patrick Gentel, patron de SNCF Réseau, a expliqué qu'il y avait des travaux de maintenance à cet endroit-là et que c'est une éclisse effectivement qui a percuté le plancher. Un incident rare, mais qui n'a rien de comparable avec ce qui avait pu se passer à Brétigny-sur-Orge il y a 4 ans et demi. Une victoire pour ne pas tomber plus bas. Le 15 de France n'a pas le choix ce soir à Marseille. Il lui faut battre l'Italie dans le tournoi Destination. Un tournoi dans lequel ils n'ont rien gagné depuis 11 mois. Une victoire effacerait les échecs de l'équipe de France. Et on va dire, c'est des boires extra-sportifs, Jean-Michel Rascol.
Oui, c'est le rendez-vous idéal face à la squadra du rugby qui vient d'encaisser 102 points pour ses deux premiers matchs dans ce tournoi. Un rendez-vous sur le terrain, qui peut aussi atténuer les mauvaises ondes qui poursuivent le 15 de France depuis ses dérapages nocturnes à Édimbourg. 8 joueurs ont été suspendus et leurs remplaçants, dont Mathieu Bastaro, espèrent que ce match sera celui de la réconciliation, du moins avec le public.
Si on fait un gros match et une belle victoire, on parlera moins de ce qui se passe en dehors du terrain. Ce qui s'est passé, c'est passé, on n'y reviendra pas, ça a été fait. Je pense qu'il faut que tout le monde passe à autre chose, que ce soit nous, vous. Parce que j'ai un peu des fois l'impression qu'on se met un peu des bâtons dans les roues tout seul. Après, on n'arrive pas en sauveur. On n'a pas de cap de super-héros en disant qu'avec nous, ça va être mieux ou autre. On vient juste aider l'équipe et faire que cette équipe soit meilleure.
Voilà comment un France-Italie qui se présentait comme une formalité devient le match clé pour ne pas perdre toute crédibilité.
France-Italie à partir de 21h au stade Vélodrome. Les supporters de Saint-Etienne privés de derby à Lyon dimanche pour la 27e journée de Ligue 1. Ils sont interdits de déplacement par le ministère de l'Intérieur après les incidents à l'aller, fumigènes et envahissement de terrain. Et puis du côté des Jeux de Pyeongchang, on croise les doigts en ce moment pour une 6e médaille d'or autour du cou de Martin Fourcade. Il dispute en ce moment le relais du biathlon. On vous tient au courant. Pas la peine de s'offrir un voyage en Sibérie. L'air froid est là. La météo de Patricia Charbonnier dans un instant.
RTL Midi.
La météo, Patricia Charbonnier, bien glacée et bien contrastée aussi.
Oui, sur la moitié nord du pays, sur la côte atlantique, le ciel est parfaitement dégagé. C'est du plein soleil pour cet après-midi, mais la bise qui souffle renforce la sensation de froid. Alors que le ciel restera encore très nuageux cet après-midi entre les frontières de l'Est, la Méditerranée et les Pyrénées, et même encore très instable sur l'extrême sud-est avec des averses entre la côte d'Azur et la Corse. De la neige sur les Alpes, en particulier près de la frontière italienne, avec toujours un risque d'avalanche très important sur le Mercantour. Température froide, évidemment, cet après-midi, 2 degrés à Mulhouse, 4 à Cherbourg, 5 à Paris et Lyon, 7 à Brest et Montélimar, 11 à Nice et 13 à Ajaccio.
Et le froid polaire se confirme.
Oui, à partir de dimanche, ça va devenir pénible hein, avec ce froid qui va s'intensifier au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine. Demain, sur la moitié nord du pays, ce sera encore très ensoleillé, toujours avec la bise, mais localement, on pourra avoir quelques plaques de grisaille tenaces dans le Val-de-Loire. Sur la moitié sud, nous aurons un ciel en dégradé, plutôt lumineux dans la partie sud-ouest sur la côte atlantique et de plus en plus nuageux et très instable en direction du sud-est avec encore des averses sur la côte d'Azur, la Corse, encore de la neige sur les Alpes avec en plus le vent qui va souffler fort sur les Alpes jusqu'à 70 km/h en rafale et toujours ce risque d'avalanche très marqué pour demain, notamment en Haute-Tarentaise ou encore sur le Mercantour, les températures moins 4 à 7 degrés demain matin, 3 à 14 dans l'après-midi et donc à partir de dimanche, là c'est le Moscou-Paris qui s'installe jusqu'en milieu de semaine prochaine avec un temps sec en général mais toujours instable sur l'extrême sud-est.
Ça va piquer. Merci, Patricia.